Auditrices, auditeurs, salut, vous êtes dans les Échos du Charbon, là où on reçoit tous ceux qui font l'actu du Café Charbon, salle de concert à Nevers. Cette semaine, on reçoit un tiers d'un trio qui vient tout droit de Mars. On coupe le suspense tout de suite, hein, on parle de Mars sur Allier, et pas de la planète rouge, quoique. Salut Sylvain.
Bonjour Hugo.
Tu fais partie donc de ce trio du groupe Mars et vous produisez ce jeudi 13 mars au Café Charbon à partir de 18h30. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi autant d'influence science-fiction dans ce que vous faites ?
Donc Mars est un trio Doom, Stoner ouais. Doom.
C'est quoi Stoner Doom ?
C'est un sous-genre du rock metal.
Ouais.
Ce sont des genres qu'on écoute, qu'on pratique. C'est...
Il y a quelques noms que tu peux me donner, quelques influences.
Ouais, bah, l'influence principale, ça va être Black Sabbath, ça va parler à tout le monde, c'est un groupe qui a explosé, qui a créé plein de sous-genres. Stoner Doom, pour nous, ça va être Monolord, c'est un groupe suédois. Il y a pas mal de... En Europe du Nord, il y a pas mal de groupes comme ça. On va parler de Greenleaf, on va parler de Mars Red Sky en France.
Ouais.
Qui fait ça déjà, donc encore une planète rouge. voilà, donc nous on avait décidé de se lancer sur ce projet qui a évolué, hein, puisque maintenant ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Il y a classiquement 3 grands thèmes dans le Doom, qui est une musique qui se veut lente, avec un chant généralement clair, quelque chose qui contraste fort avec des accords très très graves,
ouais.
Une musique très très lente, souvent empreinte de fuzz. Le fuzz, c'est un effet à la guitare ou à la basse ou à n'importe quel instrument qui va venir distordre le son d'une certaine façon, qu'on retrouve beaucoup dans le rock des années 70. On le remet au goût du jour, un peu plus moderne. Et ces 3 grands thèmes, généralement, dans la musique Doom, c'est l'espace, le cosmique, la drogue et les sciences occultes. En général,
d'accord.
C'est ces trois-là. Nous, on a peu d'affinité pour deux d'entre eux, donc on a choisi l'espace.
C'est vrai que c'est hyper influencé, voilà. Cosmique, cosmos. Vos visuels sont hyper léchés là-dessus d'ailleurs.
Merci.
On en parlait juste avant.
Merci beaucoup. Oui, c'était une volonté du groupe de se rapprocher des influences des années 60, 70, 80 sur la science-fiction. Mmh. On a été bercé depuis tout petit sur ces films-là, sur ces romans-là. C'est la science-fiction, leur apogée des années 70. 80, les premiers Star Wars, Star
Trek, c'est ça que j'allais te demander,
Alien.
Justement. C'est quelles influences de science-fiction vous donnent toute cette imagerie
Ça va des bandes dessinées de Mobius,
ouais.
Artiste français. Les plus contemporains, ouais. On peut parler de Blade Runner,
ouais.
Dune.
Ouais.
Ça, c'est des choses qu'on aime beaucoup. En même temps,
les dunes d'aujourd'hui et les dunes des années 80.
Tout du roman de Frank Herbert. et donc, là-dedans, on aimait bien. Il y a toujours des ambiances sonores très, très particulières, très léchées, qu'on aime beaucoup. Mm-hmm. Et c'était dans le projet de faire à la fois des chansons stoner rock, doom, assez classiques, et en même temps de réincorporer dedans de l'atmosphérique et des chansons instrumentales un peu plus contemplatives, avec l'idée que ça puisse être une musique de film sur un film comme ça.
Ok, et c'est de musique de paysage, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais.
Sur l'album, il y a 2 chansons instrumentales qui ont des vibes très différentes l'une et l'autre, et l'idée, c'est de pouvoir les caler sur un paysage lunaire, spatial, quelque chose d'un peu de l'ordre de l'épopée.
Ouais, quelque chose de désertique,
voilà.
Je vois très bien.
C'était un peu l'ambiance qu'on voulait, et pour l'instant on est assez content du résultat.
Ça fait un peu plus de 10 jours que votre album il est paru, c'est ça, hein ?
Ça y est, oui, on a cherché une date sur le début de l'année 2025, puisqu'on a enregistré en l'été dernier. Et le mois de mars, pour le groupe, ça s'est prêté assez bien. Ça nous a fait rire, on est parti là-dessus.
Et ça, donc, c'est le premier album, il s'appelle Cosmic Squid. Vous avez enregistré ça, du coup, tu le disais, hein, l'été dernier, à la ferme, apparemment.
C'est ça.
Explique-nous.
C'est
un bon environnement pour enregistrer du son.
Ah, ouais, tout à fait. Beaucoup d'artistes se retranchent dans des résidences, des maisons, des studios,
ouais,
qui
on
sont.
Voit ça.
Voilà. L'idée, c'est d'être un peu coupé du monde, isolé de ce qu'on fait et à fond dans la musique. On a la chance d'avoir pu faire ça. On s'est un peu enfermé pendant une semaine en transformant la ferme de Clément, qui est bassiste dans le groupe,
ouais,
en studio d'enregistrement.
Ça tombe bien hein, d'avoir un agriculteur dans le groupe,
exactement.
Ça aide.
Exactement. Donc c'était une semaine assez intense. On a enregistré notre album en 5 jours.
Ouais.
C'était très très rapide, mais ça faisait des journées énormes. En fait, moi personnellement, je ne m'en rendais pas compte. On enregistrait environ 10 heures par jour. C'est en reparlant avec d'autres groupes qu'on s'est vu que c'était un petit peu important comme rythme de journée. La fin, c'était compliqué. Hein.
Mm.
Mais voilà, c'était un marathon, un sprint. On avait cette semaine-là pour enregistrer. On a tout fait avec Théo Jude qui nous a mixé, qui nous a enregistré, qui lui a aussi des projets musicaux, notamment Greyborn.
Mm-hmm.
Une entente formidable avec lui, une vraie rencontre artistique. Et ensuite, on a fait appel à Florence Icard du groupe Stone from the Sky pour masteriser l'ensemble.
C'est 5 jours que vous passez dans l'univers total de votre album.
C'est ça, sachant qu'on avait déjà fait de la pré-prod avant.
Ouais.
Ça faisait 2 ans qu'on était sur les chansons, voilà, les morceaux qu'on voulait faire. On a rajouté le dernier Shalbatana Valis à la toute fin. On n'était même pas sûr de l'enregistrer. Parce que c'est un morceau qu'on venait d'écrire. Finalement, on le met dedans, ça passe très très bien. Et c'est devenu une de nos chansons préférées en plus.
Ouais.
Ouais.
Tu vois, c'est ce genre de petite expérience là qui...
C'est la magie du studio.
Qui te donne un petit peu plus d'épaisseur à ton projet. Pour nos auditeurs et nos auditrices, on va être... On va être sympa avec vous, on va vous donner un petit premier extrait de cet album, ça s'appelle Run et on se retrouve juste après.
We'll be right back.
Vous êtes sur PAC FM et on est toujours dans les échos du charbon. On est avec Sylvain du groupe Mars qui sera sur scène ce jeudi au Café Charbon. Alors vos sons, ils composent, ils convoquent beaucoup d'instrus. Il y a une dimension instrumentale qui est super importante. C'est ce qui peut donner quand même un petit peu ce sentiment planant à l'auditeur. Mm-hmm. Est-ce que le processus de création, il est différent de la compo pour les chansons à texte?
Dans une chanson instrumentale.
Ouais. Qu'est-ce qui change? Quelles compétences ça convoque? Est-ce que vous avez un autre processus de compo?
C'est quand on enlève les paroles, parce qu'une chanson, généralement, on raconte une histoire. Hmm. Quand on enlève les paroles, il y a toujours, je pense, un petit effet pour le groupe. On va se demander, est-ce que c'est assez, finalement? Est-ce que quand on compose une chanson de texte avec des paroles, tu dois laisser de la place à ces paroles? Mmh. L'enlever pour faire de l'instrumental, on se demande toujours est-ce que j'en ai mis assez.
Ouais.
Est-ce que ça suffit? Est-ce que l'instrumental suffit à lui-même? Ou est-ce qu'il va falloir rajouter des paroles parce que ça fait trop vide? Ou parce que finalement c'est l'histoire qu'on veut compter sur cet instru-là? Donc c'est toujours ce jeu de laisser de la place ou pas. Pour les deux morceaux de l'instru qui sont en instru sur l'album, ça s'est fait tout seul. On est parti en composant ces morceaux, on part toujours d'une partie qui nous inspire, un thème ou un petit lick, un petit riff, et on développe là-dessus. Et pour les deux morceaux instrumentaux, on s'est regardé assez rapidement en composant, en écrivant, on s'est dit « Ah, ça, ce sera suffisant pour l'instru. »
Ça serait de l'instru.
Voilà, c'est ce qu'on voulait en instru.
On n'a rien à ajouter au-dessus.
Question de volonté, hein. Après tu le traites différemment. Mmh. Le schéma classique d'une chanson, il comporte des couplets, comporte des refrains en général. Le refrain classiquement se répète, mais on n'est pas forcément obligé de le répéter, ou pas exactement pareil. Là, sur une chanson instrumentale, t'as des parties qui reviennent, des parties qui changent, qui évoluent. L'idée, c'était un peu, voilà, si on devait composer une chanson de film, nous, avec nos instruments, comment on ferait ? Alors Hans Zimmer compose des gros snaps de drones au synthé qui varient peu. Par exemple, ce qu'il a fait dans l'œuvre de Batman, il y a deux accords dedans. Voilà, nous, si on fait une chanson de 6 minutes en instru avec deux accords, ça va être un petit peu vide. Donc il faut trouver...
On n'a pas le prodige d'Hans Zimmer, en plus.
À son niveau, il y a quand
il
même...
Il a un peu d'expérience.
Quand même, voilà. Je n'irai pas non plus me comparer à Hans Zimmer. Mais il y a des choses qui marchent pour le cinéma, il y a des choses qui marchent pour la scène.
Oui, c'est parce que vous ne faites pas la même chose aussi.
Exactement. Là, même si on voulait que ce soit un peu contemplatif, un petit peu atmosphérique, que ça emmène les gens dans un voyage, en fait.
Que ça ait un sens, ouais. Mm. Parce que c'est ça aussi, tu peux faire une instru avec énormément de... Tu peux avoir autant d'inspi possible, tu peux... Sans que ça ait de sens du tout au final sur ton album et sur ton œuvre finale, en fait.
Faut trouver une cohérence. Nous, avant d'être sur scène et de faire de la musique, on écoute beaucoup de musique. On va à plein de concerts, plein de festivals. On s'inspire toujours aussi de ce que font les autres. On se dit, ah tiens, ça, c'est ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Mmh. Alors, il y a des fois c'est incroyable, mais c'est leur truc à eux, on va pas y toucher.
On n'arrive pas à y toucher.
Des fois, ça va juste nous lancer sur, ah, on pourrait faire à notre sauce un peu le même délire. Voilà, donc l'idée, par exemple, nous, c'était important d'installer l'auditeur dans une ambiance. Pour ça que sur scène, on parle peu. Mmh. Et on l'amène... Au début, on le récupère à la fin d'un voyage qui se veut cosmique, avec de la fuzz beaucoup, donc l'effet dont on parlait tout à l'heure, avec beaucoup de samples entre les morceaux. Mm-hmm. L'idée, c'est jamais relâcher ce qui se passe sur scène, qu'il n'y ait pas de temps mort, et que c'est un voyage finalement où on joue sur des sets de 40-45 minutes. On se dit, ah ouais, on n'a pas vu le temps passer, on était un petit peu ailleurs pendant cette fenêtre-là.
Mmh. Bah oui, justement, ces chansons planantes ou atmosphériques, ça peut être réussi en studio, et puis tu peux le planter en live. Justement, quand vient le moment du live, et que ça peut éventuellement être maladroit dans la réalisation. Comment vous vous préparez à tout ça? Comment vous vous préparez au live de ce jeudi, justement, au Café Charmant, à 18h30?
Eh bien, c'est une préparation constante. C'est un peu comme un sportif qui va faire une compétition. Il s'entraîne beaucoup. Enfin, nous, on s'entraîne beaucoup. Après, même avec l'entraînement, il y a toujours le stress à gérer. la fatigue, les imprévus. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de performance, parce que bah, y a toujours des imprévus qui arrivent. T'as un instrument, tu casses une corde, comment tu fais?
Oui.
On passe énormément de temps sur scène avant les concerts, ça les gens le voient jamais, mais la préparation, les balances, pour que tout se passe bien, pour que toi tu entendes bien ce que tu fais aussi, parce qu'avec le monde, avec le bruit, et sur scène c'est quand même très compliqué d'avoir une audition parfaite de ce qui se passe. Même des fois avec ce travail-là sur scène, ça arrive qu'il y ait des imprévus. Mmh. Le nombre de vidéos où tu vois des artistes qui ont leur retour intra-auriculaire qui dysfonctionne, qui les enlève, qui les remettent, ça fait partie du direct.
Et est-ce que ça peut pas créer aussi quelque chose d'un peu intéressant parfois?
Si, parce que c'est unique. Chaque prestation est unique. On a vu des artistes dont on adore les albums, tu vas les voir en scène, et ce concert-là, ils l'ont foiré. C'était nul. Ou alors, toi, tu connais par cœur leurs morceaux et tu sais que là, il y a une erreur.
Soit ils l'ont foiré, soit ils l'ont très bien réussi par rapport à un autre.
Quand tu lances des morceaux que personne ne connaît encore, même si tu fais des erreurs, ça se voit pas, c'est invisible. Toi, tu sais que t'en as fait, mais les autres le verront pas. Donc, l'idée, c'est de se rattraper sur l'alchimie qui existe entre les musiciens. Alors à trois, une alchimie assez forte, on se connaît bien, donc on sait récupérer les erreurs des uns des autres quand il y en a. Et puis ben, c'est des morceaux qu'on commence à connaître très très bien, puisqu'on travaille depuis 3 ans dessus. Donc normalement, pas trop d'erreurs.
Et puis ces imprévus-là et ces petites erreurs, ça foire pas forcément un concert de toute façon. Peut-être pour vous, mais en tout cas pour le public, peut-être pas. Le public, comme tu l'as dit, ça rend pas forcément compte, donc ça foire pas forcément l'expérience.
C'est ça, ce qui est intéressant, que le concert et l'album, c'est vraiment deux sciences différentes.
Ouais.
Le concert, c'est de l'éphémère. Ça va être une représentation ponctuelle à un moment donné. Tu vas voir des artistes qui font une tournée. En fin de tournée, généralement, la voix est un peu plus fatiguée, mais ça rend autre chose. Il y a d'autres vibes. C'est une énergie à un moment T. Et l'album est quelque chose qui est inscrit pour durer.
Mmh.
C'est ça qu'on est généralement beaucoup plus attentif à tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir sur l'album, parce que là, il va s'inscrire dans le temps.
Ouais, l'album c'est quelque chose que tu revis tout le temps.
Le concert, tu peux le réécouter.
C'est compliqué de le revivre.
Ah non, une fois que c'est fini, c'est fini. Mm-hmm. Voilà, ce qui est passé est passé.
Ouais.
Alors que l'album, il s'inscrit dans le temps. Et sur notre album, par exemple, il y a pas mal de petites erreurs, mais qu'on a laissées volontairement parce qu'on trouvait que ça apportait une dimension, une patte. Alors, tu peux t'amuser à les retrouver. Elles sont quand même bien masquées, mais
ouais, ça, c'est pour
ça peut aussi donner. Voilà.
Faut écouter l'album, du coup.
Ouais, bien sûr, voilà, disponible partout.
Voilà, il faut l'écouter et le réécouter, du coup, parce qu'il faut aller chercher les erreurs.
Cosmic Squid, dispo sur Spotify, Deezer, YouTube.
Ouais, sur toutes les plateformes, pas sûr. Vous connaissez maintenant. Votre langue de prédilection, c'est l'anglais, hein, dans vos sons.
Oui.
Est-ce que dans le genre dans lequel vous évoluez, vous trouvez aussi, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais ça me semble important d'en reparler quand même un tout petit peu, parce que c'est un genre qui est niche, hein, comme on dit. Du coup, est-ce que vous trouvez des influences françaises dans ce genre-là?
Par rapport à la langue?
Par rapport à la nationalité des groupes?
Oui, c'est vrai que l'anglais, nous, pour le genre qu'on fait, c'était une évidence. Ça mais une distance avec l'auditeur aussi. Quand tu es français, que tu entends un groupe anglais, enfin qui chante en anglais, même s'il est français, tu te mets dans un certain mood où tu vas peut-être faire un peu moins attention à ce qui se dit et un peu plus profiter de l'ensemble. C'est pour ça que nous, ça nous paraissait intéressant. Dans le genre qu'on fait, c'est assez convenu de chanter en anglais. Et même si les chants sont souvent en anglais, il y a pas mal de groupes français de cette scène-là, qui est une scène un peu niche, hein, qui correspond pas à tout le monde, mais qui arrive à trouver sa place, parce que vu que c'est des textes souvent chants clairs, moins saturés que dans le métal plus classique, des fois ça passe mieux pour les auditeurs un peu plus néophytes. Pour la scène française qui est en train de bien se développer, il y avait Mars Red Sky qui était vraiment le groupe qui a fait un peu connaître ce genre et qui a développé depuis la France, qui s'exporte pas mal aux États-Unis notamment, où ils ont explosé, ce qui est assez rare pour un groupe français.
Surtout dans un genre comme
et
ça.
Et on retrouve sur leur label des groupes comme Witchfinder, Warm Sand, Red Sun Atacama, qui sont des groupes qu'on suit beaucoup. Warm Sand, on a joué avec eux il n'y a pas longtemps à Clermont-Ferrand. C'était une super rencontre aussi. Ouais. C'est des groupes qui vont être programmés dans les gros festivals comme on retrouve au Hellfest cette année par exemple, ouais. Programme Sound. C'est quelque chose qui, voilà, il y a quand même un traîneau de groupes français et puis tous ceux que bon, j'ai pas cités parce que je me suis arrêté à un petit label, mais il y a beaucoup de groupes hein, en France, hein, rien que sur le bassin de Nevers, nous on voit le nombre de groupes qui existent dans des styles différents. Sur ce genre, même si c'est niche, il y a quand même un gros potentiel français qui s'exprime à travers différents festivals, notamment le Desert Fest, qui est un peu la mecque du stoner doom rock psyché, qui dispose d'un festival à Londres, à okay. Berlin et à Anvers, en Belgique.
Ok.
Avec aussi de pas temps
mal,
en temps
pas mal.
Donc voilà, c'est un festival qui change de ville en ville et qui traîne avec lui... La bonne parole du Stoner Doom.
Ça donne des petits rendez-vous au cas où. Merci Sylvain. On fêtera donc la sortie de cet album, Cosmic Squid, parce que c'est une release party, hein, qu'on le dise bien, en c'est live ça. Au Café Charbon.
La naissance d'un premier album. Donc nous, on est ravis de vous voir sur scène jeudi à partir de 18h30.
Ah ouais, on a très très hâte. C'est ce jeudi, du coup, 13 mars, comme tu l'as dit, à partir de 18h30. Les tickets sont à prendre sur le site internet du Café Charmont, www.café-charmont-nevers.com. Également sur scène ce soir-là, Alta Rosa, du post-metal hardcore, sonorité noise et black metal, avec des membres de Orsk, Prison Life, enfin bref, une soirée qui déglingue. En attendant, on va écouter Burning Sun de Mars tout de suite. Les gars, les filles, on se retrouve tous en concert. Salut!